Française, français.
Bonjour.
Le général de Gaulle est mort.
C'est pas la gauche, la France.
La France est veuve.
C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
En 1944, il nous a conduits à la libération. Il a donné à la France actuelle ses institutions.
Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement.
Vous êtes à l'écoute de De Gaulle 2020, l'émission qui nous replonge dans les méandres de la personnalité complexe et tourmentée du général De Gaulle, de son histoire singulière, qui est aussi la nôtre, puisque De Gaulle prétendait être la France, prétention dont au fond nous avons, avec le recul de l'histoire, accepté l'augure. Tout le monde est, a été ou sera gaulliste, disait-on de son vivant. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les forces politiques au moins, s'inclinent devant sa statue. Mais qu'est-ce qui, en 2020, peut nous relier encore au général 50 ans après la mort de cet homme né au 19e siècle? C'est ce que nous explorons chaque dimanche de l'été.
De Gaulle 2020.
C'est lui qui a dit tout le monde est, a été ou sera gaulliste, n'est-ce pas?
Thomas Legrand sur France Inter.
Il y a une troisième solution, c'est la participation qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. C'est la voie que j'ai toujours cru bonne.
On vient d'entendre une archive de 1969. Le général de Gaulle évoque la participation à la télévision, une notion que le général a élaborée dès le début de sa vie politique pendant la guerre en 1941, lors du discours d'Oxford, donc prononcé en novembre 41. Un discours important de De Gaulle parce que c'est l'un de ses rares propos idéologiques. Il y dénonce le nazisme, le totalitarisme qui veulent imposer leur tyrannie et une uniformité inhumaine, souvent avec De Gaulle, il s'agit de l'honneur de la France, de la grandeur de la France. Là, il est question de valeurs et de politique. Ce discours était le discours de référence des gaullistes de gauche ou alors des gaullistes sociaux parce que De Gaulle y critique aussi le capitalisme. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons été voir deux ministres qui ont grandi après le général de Gaulle et même longtemps après sa mort pour l'un d'entre eux. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire étaient respectivement ministres du budget et de l'économie début juillet quand nous avons confectionné cette émission. Le sont-ils encore? Sont-ils encore à leur poste? Bah ça vous le savez au moment où vous l'écoutez. Nous on le sait pas. Mais ça ne change rien, Darmanin et Le Maire viennent tous les deux d'un parti de droite. Ils ont accompagné sans complexe le libéralisme de leur mouvement. Et pourtant, ils se réclament tous deux du gaullisme social. Gérald Darmanin, pour tenter de donner un peu de contenu au parti présidentiel, à Emmanuel Macron, a ressorti récemment l'idée gaullienne de la participation. C'est cette idée restée en l'air que nous allons explorer dans la première partie de cette émission. Elle fait partie du mythe gaullien, au sens, cette fois-ci, mystification peut-être. Aujourd'hui, est-ce un gadget politique, encore une fois, ou est-ce une vraie idée d'avenir? Retour sur la participation avec Gérald Darmanin.
Selon le général de Gaulle, ça suffira. Le général de Gaulle cherchait, depuis ses discours de guerre, de reconstruction fantasmée de la France pendant qu'il était à Londres puis à Alger, puis ensuite lorsqu'il était dans l'opposition avec le RPF, il cherchait une troisième voie économique qui n'était ni le capitalisme, ni le communisme. Et donc cette troisième voie, il la voyait comme une association entre le capital et le travail. Il faut bien voir que le général de Gaulle a été très marqué d'abord par le catholicisme social, Marc Sangnier, le Sillon, cette volonté très forte de mettre l'homme et le partage en avant. Il a été très marqué aussi parce que c'est un homme qui a vécu le Front populaire, les intérêts de classe, la dénonciation des 200 familles, les congés payés. Il y a eu ça sans doute dans la construction intellectuelle du général de Gaulle qui avait 50 ans.
C'était pas sa culture.
C'était pas sa culture, mais il adressait ses mémoires à Blum qu'il aimait bien. Il avait beaucoup de contacts avec des dirigeants socialistes et il était un catholique pratiquant, un catholique social, comme on dit. Aujourd'hui, on parle de gaulliste social, mais il faut bien voir que dans les années 20, 30, 40, il y avait le catholicisme social. Et il cherchait sa troisième voie, donc, c'était donc l'association. En fait, la participation, il dit souvent au début de ses discours, dans les années 40, 50, l'association capital-travail. Afin que les intérêts des deux classes, la classe qui a le capital, la classe dirigeante, et puis la classe qui a la force de travail, comme dirait Marx, la classe travailleuse, ouvrière, puisse s'associer et non pas être en contradiction et chercher des buts différents qui font naître la révolution.
La lutte des classes, elle est partout. Car c'est bien la question sociale, toujours posée, jamais résolue, qui est à l'origine des grandes secousses. Le discours d'Oxford n'a pas été enregistré, vous venez d'en entendre un extrait, lu, très bien lu, par Eric Oswald.
Il n'y est pas la lutte des classes. Il la redoutait, mais il n'y est pas cette conception. Il en parle un peu dans le discours d'Oxford en 1941, et il regrette qu'il y ait la lutte des classes.
Bon, d'abord, De Gaulle a été lâché par les bourgeois et par les riches, à quelques rares exceptions près. En 1940, il n'avait vu que les pêcheurs d'Île-de-Sein et la cagoule, comme il disait. Des gens qui, finalement, n'étaient pas ceux avec qui il s'était adressé en premier. Des gens très pauvres qui l'ont soutenu, qui avaient juste...
C'est quoi sa phrase ? Les possédants...
sont possédés parce qu'ils possèdent.
Ouais, voilà. Les possédants sont possédés parce qu'ils possèdent.
En gros, aucun grand patron n'est allé à Londres en 1940. Ils avaient trop beaux hôtels particuliers et trop de richesses en France pour ne pas pouvoir les protéger. Et alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques personnes quand même qui ont aidé le général de Gaulle à Londres dans les années 40 et qui avaient de l'argent. Mais enfin, c'est vrai qu'ils étaient bien peu nombreux. Et donc, peut-être que ces discours de 41-42 n'ont été influencés par personne. Il y a très peu de choses très idéologiques dans la pensée gaulliste. Mais moi, je crois que la participation en fait partie. C'est un des marqueurs idéologiques. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que finalement, le général de Gaulle ne l'a jamais vraiment mis en place.
En 44, il arrive au pouvoir. Le Conseil national de la résistance, finalement, n'instaure pas la participation. Il y a quand même le comité d'entreprise.
Il a fait les comités d'entreprise en 1944. L'arrivée, l'association, déjà, des travailleurs à la décision de l'entreprise. Il a aussi fait la sécurité sociale. Dans un pays qui avait 230% de dette, De Gaulle et le CNR inventent un truc qui coûte cher, qui s'appelle la sécurité sociale. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Alors, grâce à un communiste notamment, hein, on va se croiser, mais pas simplement. Et puis, il fait quand même beaucoup de nationalisation. Et il a peu de temps, finalement, pour gouverner le pays, mais il ne met pas en place sa participation. Il n'a pas choisi la participation comme objectif premier.
Le comité d'entreprise, c'est déjà un petit embryon ou pas ?
Ben, sur De Gaulle, la participation, c'est pas que financier. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est simplement les travailleurs qui sont actionnaires de leur entreprise et qui touchent des dividendes comme le capital. Ça, c'est vrai que c'est un angle de participation. Mais pour De Gaulle, il n'y a pas que ça. Il y a la responsabilité. Et ça fait partie du comité d'entreprise, la responsabilité. C'est-à-dire qu'on associe, pas simplement au sens financier du terme, mais au sens pratique du terme, on associe les ouvriers à la décision de l'entreprise. Et puis, dans l'idée de Gaulle, il y a évidemment aussi l'idée d'améliorer la condition ouvrière. Et il croyait certes aux classes sociales, le général de Gaulle, pour mieux éviter qu'elles se confrontent, mais il était très intéressé, comme beaucoup d'hommes de son temps, par la condition de vie des ouvriers. Et c'est la condition de vie des ouvriers qu'il s'agissait d'améliorer. Et pour lui, en améliorant la responsabilité dans la décision de l'entreprise, eh ben on acceptait l'idée qu'on n'était plus très marqué par Charlie Chaplin et la guerre industrielle dont les images sont très fortes, sans doute, dans les hommes du temps du général de Gaulle, avec les fonderies, avec le textile. C'est un homme du Nord, avec les mines, évidemment. Et puis troisièmement, une idée qu'ont développée plus tard les gaullistes, les derniers gaullistes, on pourrait parler de Philippe Séguin, par exemple, c'est l'idée que la participation, c'est la nationalisation des entreprises. Quand les salariés deviennent propriétaires d'une très grande partie du capital d'une entreprise et qu'ils décident des grands objets stratégiques de l'entreprise, il y a peu de chances pour qu'ils délocalisent. Ils vont pas être schizophrènes au point de voter des délocalisations pour faire plus de bénéfices alors qu'ils sont salariés de cette entreprise.
En 1947, le général de Gaulle crée le RPF. Et là, dans le programme du RPF, elle n'est pas très présente, la participation.
Il y a quelques discours encore où le général de Gaulle associe le capital et le travail dans les années 40, enfin post-guerre et début des années 50, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour de Gaulle, c'est les institutions à ce moment-là, à commencer par le discours de Bayeux, et puis la guerre contre le régime des partis. Mais à cette époque-là, Il y a une amélioration très forte quand même de la condition de vie des ouvriers qui n'est plus la même qu'en 41.
Oui, la croissance est telle.
Ah oui, il y a 30 glorieuses, il y a la croissance, on construit des logements. Alors même s'il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans des conditions extrêmement déplorables, à Nanterre il y aura des bidonvilles, d'ailleurs il y en a encore un peu dans la proche banlieue parisienne, il y a quand même une amélioration générale de la condition de vie. Vous savez, c'est le fameux discours du général de Gaulle quand il est président de la République. C'est quoi le progrès ? Le progrès, c'est avoir une auto, avoir un frigo. Donc c'est quand même cette image où finalement la condition de vie ouvrière s'améliore par la croissance. Les congés payés sont donnés même sous le gaullisme, hein, puisque c'est bien les gaullistes qui donnent une quatrième semaine de congés payés, avant d'attendre Mitterrand pour la cinquième. Donc la condition de vie ouvrière, elle ne se passe pas forcément par la participation. Et donc dans les années 40-50, le général de Gaulle, il est très inquiet par la décolonisation, il est très inquiet par le fait qu'on soit dans l'OTAN, il est très inquiet du fait des institutions qui ne marchent pas, le régime des partis, et il est très branché, si j'ose dire, institutions. Et donc du coup, on oublie la participation. Sans doute aussi sur l'autel d'une croissance toujours très très forte des années 60. Hein. C'est le Concorde, c'est le périphérique, c'est le plan en calcul, c'est une France conquérante et on n'a plus besoin de revoir forcément la condition de vie ouvrière. Il y a quelques événements sociaux très durs sous De Gaulle, des agriculteurs au début, les mineurs.
Des grèves très dures.
Donc du coup, ça le pousse peut-être pas forcément à aller vers la participation. Et puis surtout, il y a Pompidou, qui même si à la fin de sa vie politique, il a des discours en tant que président, essaye d'ouvrir la participation, mais de façon extrêmement modeste, a beaucoup bloqué. Et oui. A beaucoup bloqué les gaullistes de gauche, qu'on appelait les gaullistes de gauche, qui n'ont finalement jamais été au pouvoir sous le général de Gaulle.
Dès lors que des gens se mettent ensemble pour une œuvre économique commune, par exemple pour faire marcher une industrie, en apportant soit les capitaux nécessaires, soit la capacité de direction, de gestion et de technique, soit le travail, il s'agit que tous forment ensemble une société où tous aient intérêt à son rendement et à son bon fonctionnement, est un intérêt direct. Ça implique que soit attribué de par la loi à chacun une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même grâce à ses gains. Cela implique aussi que tous soient informés d'une manière suffisante de la marche de l'entreprise et puissent, par des représentants qu'ils auront tous nommés librement, participer à la société et à ses conseils pour y faire valoir leurs intérêts, leurs points de vue et leurs propositions.
Voilà, on vient d'entendre un autre extrait du général de Gaulle, toujours dans la même émission, avec son intervieweur officiel exclusif, Michel Droit, en 1969. Une interview très intéressante où l'on sent les doutes, et oui, les doutes et la volonté de réforme du vieux président.
Alors, il y a les gaullistes de gauche qui ont essayé d'influencer effectivement Pompidou et le général de Gaulle, notamment Capitan, Vallon, des gaullistes de première main, souvent des résistants, souvent des compagnons de la libération, mais qui n'ont jamais eu de grandes responsabilités, et surtout pas économiques. Hein. Je rappelle que sous de Gaulle, qui dirige l'économie de la France, Pinet, Giscard, Debray, qui a été ministre de l'économie et des finances. Bon, voilà, on peut pas dire que c'était la frange la plus progressiste socialiste du gaullisme. Et finalement, alors, le Parlement force un peu la main, parce qu'en 66... le Parlement oblige par un amendement des gaullistes de gauche, justement,
à Vallon.
Exactement, l'amendement Vallon, de faire de la participation dans les entreprises.
De Gaulle dit de temps en temps, pour énerver Pompidou, attention, je vais sortir mes gaullistes de gauche. Voilà. Mais il les sort jamais, vraiment.
Il les sort jamais, vraiment. Et quand il dit à Pierre Fitte et à d'autres, notamment à des gaullistes de gauche, Pompidou n'a pas voulu, pour dire que l'arrangeur Pompidou ne voulait pas attaquer le capital, quoi. Bon. Mais il l'a jamais vraiment fait. C'est plutôt de la faute du général de Gaulle, connaissant sa force. S'il avait voulu imposer la participation comme il a imposé la sortie de l'OTAN, il aurait pu le faire. Bon, il ne l'a pas fait, et puis le référendum perdu de 69 l'empêche de le faire, et c'est une défaite idéologique. Aura-t-il vraiment voulu faire la fin du capitalisme et la fin du communisme dans une troisième voie gaulliste qu'était la participation ? Y croyait-il vraiment ? C'est une question très intéressante auquel moi je n'ai pas de réponse.
Mais le général de Gaulle, qui ne comprenait pas qu'il puisse y avoir des gaullistes après, il n'a prononcé le mot gaulliste qu'une fois en 68, je crois, comment il aurait... vu le gaullisme d'après. Le gaullisme d'après, c'était assez à droite. Sous Chirac, il y a eu plusieurs périodes. Mais disons que c'est resté dans la ligne pompidolienne, une sorte de gaullo-capitalisme. Est-ce que Chaban, par exemple, aurait pu, la nouvelle société, ce gaullisme-là, C'est un gaullisme plus sociétal, ça.
C'est un gaullisme moins économique. Il y avait chez De Gaulle, encore une fois, dans son discours entre les deux tours de la présidentielle avec Michel Roy, il définit ce qu'est l'ordre et le progrès. Hein. Chez De Gaulle, il y avait de l'ordre et du progrès. C'est pour ça que j'aime bien la filiation avec le catholicisme social, quelque chose de très organisé dans la société. Il ne s'agit pas d'être sociétalement à gauche, mais enfin de généreux, que l'argent ne fait pas le bonheur.
Sans être paternaliste.
Oui, vous connaissez cette phrase dans 100 000 $ au soleil. Audiard fait dire à cette très jolie femme qui s'en va avec Belmondo avec cet argent, elle dit, on va être très heureux avec cet argent.
Dans deux jours, on sera riche, Rocco. On sera heureux.
Et Belmondo lui répond...
Est-ce que t'as appris que l'argent, c'est le bonheur? T'as été élevé chez les laïcs, toi?
Vous savez que t'as vu que l'argent faisait le bonheur. T'as été élevé chez les laïcs. Voilà, il y avait un petit côté quand même, on pouvait être aimer l'ordre... Aimer l'organisation de la société telle qu'elle est sans faire la révolution, mais considérer qu'effectivement, il n'est de richesse que d'hommes, et il n'est pas de richesse que de richesse. Et il y a une partie de la droite, gaulliste, qui se reconnaissait dans ça. Alors, est-ce qu'elle a été totalement diluée à force de voir les réactions? Je le pense. Quand nous sommes à plusieurs à évoquer la participation, je suis très étonné que des grands leaders de droite, je pense à Mme Pécresse, par exemple, se disent « c'est une bêtise ». Bon, je me dis « oui, il s'est passé quelque chose idéologiquement pour que la droite... » qui vient, en tout cas, de l'affiliation du général de Gaulle, ne croit plus en cette idée d'association capital-travail. On dit que de Gaulle disait souvent, pour qu'une grande idée soit française et soit propre à l'intérêt général, il faut à la fois que la CGT et que le patronat ne soient pas d'accord. Dans ces cas-là, c'est que vous avez quelque chose qui sauve les intérêts des Français. Évidemment, c'était très provocant. La grande idée de la participation, elle n'est pas révolutionnaire. Ce qui serait révolutionnaire, c'est de le mettre en place. Moi, je pense qu'on est dans une situation dans la société... où les intérêts de classe reviennent. L'idée que la différence du salaire entre le patron et l'ouvrier est tellement différente que ça ne correspond plus à aucune justification. L'idée que le capitalisme est international, financier, et que quelqu'un décide, au fond, on a bureau à Shanghai ou à New York, de ce qui va se passer à Tourcoing, dans l'usine d'ouvriers qui pourtant ont du savoir-faire. Plus l'idée que la fraude fiscale est généralisée, plus l'idée que les petits payent toujours plus que les autres, plus l'idée qu'ils ne participent pas à la décision, plus l'idée que le complot est présent partout, peut nous amener à une situation qu'on pourrait qualifier de pré-révolutionnaire. Elle n'est pas exagérée. En tout cas, électoralement, moi, depuis que j'ai l'âge de voter, il y a eu deux leaders d'extrême droite en 4 élections présidentielles. Et donc, moi, je dis au patronat français, comme je dis aux syndicats réformistes, devant les grandes difficultés qui nous attendent, soit on joue le jeu de la démagogie, on remet un impôt qui fiscalise le capital, très bien, tout le monde sera content qu'on aura mis l'ISF, en tout cas tous ceux qui ne le payent pas, mais on va tuer l'emploi. On sait tous qu'à la fin des fins, la fiscalité du capital, ça tue le salaire, les usines des plus pauvres d'entre nous. Et puis, parce que le capital, il est mobile, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Ou alors, on dit, on augmente de façon généralisée les salaires. Mais en augmentant de façon généralisée les salaires, on va augmenter de quelques euros la caissière ou la femme de ménage. Mais à la fin des fins, on va détruire son emploi. Parce qu'on sait tous que l'augmentation généralisée des salaires, à la fin, c'est plus de charges pour les boîtes. Et à la fin, c'est moins d'emplois, parce qu'il y a moins d'emplois et un peu plus de salaires pour les autres. Et donc, si on veut éviter de faire de l'idéologie et qu'on veut faire quelque chose de structuré, bah, il y a peut-être une idée de remettre l'idée révolutionnaire de la participation.
Mais vous comprenez bien que c'est un outil théorique et politique, la participation, qui a souvent été brandie et qui est très efficace. Et là encore, quand vous nous l'expliquez, ça paraît évident. Est-ce que cette fois-ci, ça sera plus?
Ben, je l'espère. J'espère qu'on en débattra, parce qu'il y a des désavantages à la participation aussi. Vous fragilisez aussi nos entreprises, peut-être à l'international, parce que le capital doit circuler et que lorsque vous faites de l'accroissement de capital, gardez un grand nombre de ces actions aux salariés. Encore faut-il qu'ils les achètent. Si c'est gratuit, ils vont peut-être croire que c'est du faux argent. Donc il y a des problèmes culturels, il y a des problèmes fiscaux, parce que évidemment, il faut imaginer la fiscalité autour de ça. Il y a des problèmes de cotation de nos entreprises. Donc c'est plus difficile que ça en a l'air. Mais en tout cas, moi, j'aimerais d'abord qu'on en débatte. Ça a des grands avantages, la participation. Ça ne coûte pas un euro aux finances publiques. Et puis par ailleurs, je pense que c'est une bonne façon pour le patronat de se mettre d'accord avec un syndicat. Je vois que M. Roux-de-Bézieux et M. Berger font souvent des tribunes ensemble, des discussions ensemble. Bah, que la CFDT et le patronat discutent ensemble, c'est une bonne chose pour les Français. Bah, ils peuvent peut-être discuter de ce genre de choses. Et puis si quelqu'un a une autre idée, vous savez, les idées, c'est comme les atomes, hein, ça se frotte, ça fait la nouvelle matière. Peut-être que quelqu'un dira, bah non, ce que dit Darmanin est complètement con. Par contre, on pourrait imaginer telle autre situation. Un troisième dira, bah, on peut faire une synthèse de deux ou trois choses. Et puis peut-être que dans 6 mois, par la discussion sociale, par la discussion parlementaire, par la discussion politique, on trouvera une nouvelle idée. Et elle sera peut-être beaucoup plus performante que la participation, beaucoup plus facile à mettre en place, et va résoudre une partie de l'équation française. Donc ce qui est intéressant dans ce moment dur que nous vivons, c'est d'avoir des idées.
Alors dans le bureau de Gérald Darmanin, il y a plusieurs photos du général, une affiche pour le oui au référendum en 1958, et puis une photo de De Gaulle en uniforme, tenant la main à Poitiers, dans les années 50 sans doute, d'une jeune fille jouant le rôle de Jeanne d'Arc sur son cheval, et De Gaulle, bizarrement, a presque l'air intimidé.
Non, mais c'est De Gaulle en uniforme avec ses deux étoiles de général de brigade et qui serre la main à une Jeanne d'Arc qui ressemble à Jeanne d'Arc.
Sans doute en 46.
Je ne sais pas la date. Il n'y a que deux photos comme celle-ci, l'une dans le bureau du maire d'Orléans et la deuxième une copie, celle que m'a offert le maire d'Orléans. Parce qu'en fait, à l'Assemblée nationale, je siégeais avec lui et un jour, je fredonne la chanson « Mon général » de Léo Ferré qui est très peu connue. Ferré était gaulliste dans les années 40 et puis en voulait beaucoup au général de Gaulle, le détestait pour avoir fait de la politique, avoir fondé le RPF. Et il écrit une chanson d'un résistant mort, torturé, parce que résistant, qui a la photo du général dans son portefeuille, comme il dit, et lui dit qu'il trahit ses idées finalement, il trahit la résistance en faisant de la politique. Et le début de la chanson de Léo Ferré, c'est « Mon général, j'ai souvenance que vous avez sauvé la France, c'est Jeanne d'Arc qui me l'a dit ». Et le maire d'Orléans reconnaît cette chanson. Il me dit « Ah bah, je vais t'offrir quelque chose, c'est formidable, tu connais cette chanson, elle est très peu connue ». Et De Gaulle, Jeanne d'Arc qui serre la main, c'est l'histoire de France. Voilà, pour moi, c'est l'histoire de France. Et de cette photo en noir et blanc, on se dit qu'on est tout petit quand on fait de la politique face à ça. Voilà.
Je vous écris du paradis où je trouve que la terre, c'est très joli. Puisque c'est vrai, faut bien que je le dise. Je vais vous mettre mon cœur à nu. Je suis peut-être un soldat inconnu, mais la place était déjà prise. Alors, comme j'avais un copain, je crois que c'était un Américain, il m'a fait monter à l'anglaise. Le bon Dieu qui reconnaît pas le dollar, si je les ai eus, c'est un hasard. Je leur ai chanté la Marseillaise. Mon général, j'ai souvenance d'une pitié qui venait de la France. Paraît qu'il faut plus en parler. Il y en a que ça gêne aux entournures. Je me souviens des manucures. Je n'ai plus de main, je peux rien prouver. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Paraît qu'on veut vous faire élire. C'est vrai, sans blague, c'est enfantin. Ils savent pas que les vacheries de la gloire, c'est qu'au milieu d'une page d'histoire, il faut savoir passer la main. Je me souviens du petit bistrot de la gare du Nord, de votre photo que je portais comme une relique. Mon général, c'est peut-être idiot, mais je ne sais plus trouver les mots. C'était peut-être quelque chose d'héroïque. Ah oui, c'est ça, ils m'ont emmené, je crois bien que j'avais les poings liés. Au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pensez qu'ils voulaient me faire causer, comme j'avais rien à leur donner. Ils m'ont mis le cœur en bandoulière. Mon général, j'ai souvenance de mes prisons hors de la France. Vous étiez loin, vous ne saviez pas. On se fait à tout, même au tragique. J'ai toujours eu le sens épique, mais pas pour ces sortes de galas. Si d'aventure je viens à Paname, il faudra rien dire à votre dame. Je vous sortirai incognito. Je vous emmènerai dans mes domaines. Je vous demande pardon de vous faire de la peine. J'aurai pas la gueule d'un héros. Je me souviens du matin clair, il y avait même pas un reporter. J'en ai encore la chair de poule. C'était un hôtel si parfait que les clients n'y ressortait jamais. Une vraie station, une vraie bourboule. Je me souviens, mais à quoi bon? C'était pour moi ma seule passion. J'aimais les chiens, Dieu me le pardonne. J'en ai vu un qui m'a souri. J'y suis allé, puis j'ai compris. Il l'avait dressé comme un homme. Mon général, j'ai souvenance que vous avez sauvé la France. C'est Jeanne d'Arc qui me l'a dit. C'est une femme qui avait de la technique, malgré sa fin peu catholique. vous aviez les mêmes soucis. Et puisqu'il faut sur cette terre que chacun passe solitaire, vous avez le droit de rêver. Mon général, pour vos vacances, je vous raconterai l'histoire de France, des fois que vous comprendriez.
Léo Ferré, un choix de Gérald Darmanin, Mon Général.
De Gaulle, 2020. Thomas Legrand, sur France Inter.
Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie.
C'était un extrait des mémoires de guerre lus par Jean de Sailly de la Comédie-Française. Alors il suffit de monter d'un étage dans ce grand paquebot impersonnel de Bercy, là où se brasse l'argent que la France a ou n'a pas, pour atteindre le bureau de Bruno Le Maire, avec vue sur la Seine et Notre-Dame. De Gaulle évoquait dans ses mémoires la France qui sombre et se relève toujours. Bruno Le Maire, en charge de l'économie française, doit faire face à la crise la plus importante, dit-on, depuis la guerre. S'inspire-t-il de Gaulle, l'homme des crises, l'homme des circonstances?
La réponse est oui, parce que, comme vous l'avez très bien dit, c'est un homme qui a le sens des circonstances, qu'il a parfaitement décrit dans Le fil de l'épée quand il explique ce que c'est qu'un chef. C'est d'abord quelqu'un qui a le sens des circonstances. On a fait de Gaulle une espèce de bloc de granit, très uni, très statique, qui correspond absolument pas à ce qu'était, à mon sens, la personnalité du général de Gaulle, qui, dans la crise, sait manier, parce que c'est un homme plein de contradictions, qui sait manier la vision de très long terme de l'histoire de France, qui va d'effondrement en redressement successif, et puis les circonstances quasiment quotidiennes, voire heure par heure, et qui s'adapte à ces circonstances. Et je pense que c'est cette capacité à inscrire son action dans le temps très long qui a fait la force du général de Gaulle et qui fait son humanité. Pour moi, le général de Gaulle n'est pas du tout ce bloc de granit qu'on a réussi à construire au fil du temps. C'est un homme très humain, plein de contradictions, et qui lui permet justement de passer ces circonstances historiques avec toute la force que l'histoire lui a reconnue. Alors, le général de Gaulle avait aussi une capacité à se projeter dans les personnages historiques tout à fait saisissante, un peu folle. Il y a de la folie dans le gaullisme. Il y a de la folie dans le personnage du général de Gaulle. Et c'est ça qui le rend aussi attachant. Il se comparait souvent à Jeanne d'Arc, on le sait, mais il se comparait aussi à Clovis. Il disait, vous savez, Clovis a battu les barbares. Et si Clovis n'avait pas battu les barbares, la France n'aurait pas eu Charlemagne quelques siècles plus tard. Eh bien, je suis comme Clovis. Je suis celui qui va battre les barbares et qui va permettre à la France, dans les horizons lointains, de se redresser. Donc c'est parce qu'il y a ce fil directeur de la nation française, de la culture française, que quels que soient ses revirements, celui qu'il y a eu évidemment sur l'Algérie française, qui est le revirement le plus spectaculaire et le plus déchirant, c'est parce qu'il y a ce fil conducteur, qui n'est pas une girouette. C'est les racines de l'histoire de France qu'il porte au plus profond de lui-même, et l'adaptation au temps qui vient, l'adaptation à la vie. Et de Gaulle accepte que la vie le surprenne, mais il reste assis sur cette conception de l'histoire de France et de la nation française que je partage.
Et est-ce que cette figure tutélaire n'écrase pas tous les hommes politiques dont vous faites partie, qui sont les acteurs de la Ve République ?
Je pense qu'il ne faut pas essayer de rentrer dans la bille du général de Gaulle. Personne ne rentrera dans la bille du général de Gaulle. Personne. Personne n'aura les circonstances qu'il a eues. Personne n'aura la personnalité qu'il a eue. Personne n'aura la dinguerie qu'il a eue. Parce qu'il y a une part de dinguerie chez le général de Gaulle. Il faut le laisser comme ce qu'il est, c'est-à-dire un personnage exceptionnel de l'histoire de France, une référence, qui peut vous inspirer, qui
mais faut bien, m'inspire. Il faut bien succéder au général de Gaulle. Il faut bien faire l'histoire de France.
La meilleure façon de faire l'histoire de France, chacun à son niveau. Hein, vous pouvez être un ministre qui fait l'histoire de France. Robert Badinter a fait l'histoire de France en abolissant la peine de mort. Simone Veil a fait l'histoire de France. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait l'histoire de France? Parce qu'ils ont été eux-mêmes. Ils ont défendu leurs convictions. Conviction européenne, conviction féministe pour Simone Veil, conviction héritée des Lumières et des droits de l'homme pour Robert Badinter. Il ne faut pas chercher à singer le général de Gaulle. Il faut être soi-même, avec ses différences, ses particularités, ses singularités. Il faut rester soi-même. C'est comme ça, je pense, qu'on sert bien les Français, qu'on sert bien la France.
Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable. Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes.
Il y a des moments un peu gaulliens où, dans l'histoire de la Ve République, il y en a eu un. C'était le discours en 2003 de Dominique de Villepin à New York, qui affirmait le refus de la France de s'engager dans la guerre que voulaient les États-Unis, une guerre qui était illégale au regard de l'ONU. Et vous étiez un peu dans la coulisse de ce discours. Est-ce que vous avez ressenti ce moment un peu gaullien, vous aussi?
Oui, bien sûr. C'est un vrai moment gaullien. C'est un moment de folie, parce que c'est ça le propre du gaullisme. C'est une folie. La folie, vous savez, Foucault la décrivait comme l'inadéquation des mots au réel. De Gaulle, de ce point de vue-là, c'est une forme de folie. Inadéquation des mots au réel. 1940, la France est effondrée. Elle est envahie par l'Allemagne. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de peuple. Il n'y a plus rien. Puis un homme qui part à Londres et qui vous dit « La France va se redresser. Elle a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. » Folie. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Quand Dominique de Villepin va aux Nations Unies en 2003 et lit son discours... C'est facile ensuite de dire c'était un grand discours, c'était un beau discours. Enfin, il fallait avoir de la folie en soi pour le prononcer, pour l'écrire. C'est ce qu'a fait Dominique de Villepin. La réalité, c'est toute la puissance militaire américaine qui va réduire en quelques jours l'Irak. Puis de l'autre, vous avez la France qui vous explique c'est de la folie furieuse. Vous allez déclencher une guerre beaucoup plus grave qui est celle du terrorisme. Mais il n'y avait personne pour le penser à l'époque. Il y avait une forme de folie et d'inadéquation entre les mots de Dominique de Villepin, qui étaient justes, et la réalité, c'est-à-dire celle de la puissance militaire américaine qui s'affirmait au Moyen-Orient. Mais moi, j'en ai tiré une conviction profonde. On ne peut pas diriger la France sans avoir une part de folie en soi.
Est-ce qu'il a cette part de folie, Emmanuel Macron?
Je pense qu'il a cette part de folie, oui. Il a eu cette part de folie en disant « Voilà, je suis ministre de l'économie de François Hollande, il y a une primaire de la droite, normalement le vainqueur de la primaire à droite doit devenir mécaniquement le président de la République, eh bien non, c'est moi qui vais être élu. » Donc cette liberté-là, pour moi, est devenue quelque chose d'absolument non négociable.
Est-ce que vous qualifieriez d'ailleurs de gaulliste?
Oui, je me qualifierais de gaulliste, mais un gaulliste libre, comme tout bon gaulliste.
Je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, est-elle l'astéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. L'enfer, c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé. Tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler, ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Oh, est-elle l'ostéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres.
Julien Doré sur France Inter, La Fièvre, et nous sommes toujours avec Bruno Le Maire.
France Inter. De Gaulle 2020.
Françaises, Français, voulez-vous dorénavant élire vous-même votre président au suffrage universel ?
À quoi reconnaît-on un gaulliste de l'après de Gaulle ? Eh bien, au fait qu'il ne sacralise pas les institutions, la Ve République, qu'il reconnaisse qu'elles ont besoin d'un sérieux toilettage. Bruno Le Maire.
Je crois qu'elles sont en partie dépassées, nos institutions, et que la crise actuelle que nous vivons le montre assez clairement, même si d'autres épisodes ont pu le montrer avant. La mécanique de la Ve est une mécanique extraordinairement bien huilée, avec des rouages extraordinairement complexes. Le cœur du fonctionnement de ces rouages, c'est le temps. 7 ans pour le président de la République, 5 ans pour la majorité. Le temps qui est décalé, ce qui fait le bon engrenage entre le président de la République qui est élu à un moment et sa majorité qui est élue pour 5 ans seulement à un autre moment. Le quinquennat est le grain de sable qui a ruiné l'équilibre de ces rouages. Et les institutions ne s'en sont jamais remises. Le quinquennat a conduit le président de la République à avoir une majorité qui est la conséquence directe et presque mécanique de son élection. Ce que parfois beaucoup de députés ne comprennent pas, mais ils sont élus parce que le président de la République a été élu. Et ils ne sont que le produit de la légitimité du président de la République, là où auparavant ils pouvaient avoir leur propre légitimité, leur propre présence sur le terrain qui favorisait leur élection. Troisième chose, le chef naturel de la majorité, quand le temps du président de la République est aligné sur celui de la majorité parlementaire, le chef de la majorité n'est plus le Premier ministre, c'est le président de la République. Donc ça conduit à des dysfonctionnements auxquels il faudra un jour ou l'autre
c'est
remédier.
Le président redevient un homme de parti.
C'est-à-dire que ne voulait pas, évidemment,
qu'il est très difficile désormais de définir une place pour tout le monde. Et on voit bien en période de crise que les choses ne fonctionnent pas de manière aussi fluide, aussi rapide que cela devrait l'être. Nous avons un Conseil constitutionnel dans lequel vous avez des personnalités politiques. Est-ce que les Français peuvent accepter très longtemps que la plus haute instance juridictionnelle soit dirigée par des responsables politiques, aussi honorables soient-ils ? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, en faire plutôt qu'un Conseil constitutionnel, une cour totalement indépendante ? Qu'est-ce qu'on fait de la voix des Français qui veulent participer au débat, qui veulent donner leur avis ? Et ça a été une des très belles intuitions du président de la République, d'ouvrir ce grand débat comme réponse aux Gilets jaunes. Les Français veulent participer beaucoup plus. Ils ont raison. Donc c'est tous ces éléments-là sur lesquels je pense qu'il est temps maintenant d'ouvrir une réflexion. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre la réalité institutionnelle et la pratique du pouvoir, et que quand ce décalage devient trop important, ça pose un véritable problème de légitimité qui explique les tensions que nous connaissons aujourd'hui dans le pays.
Qu'est-ce qui fait la différence entre le général de Gaulle et ses successeurs ?
Je pense qu'il y a une anecdote qui montre à quel point le général de Gaulle avait plus conscience que tous ou presque tous ses successeurs de la Ve République de la profondeur de l'histoire de France. C'est le jour où le maréchal Pétain meurt. Et c'est Pompidou qui est chargé de lui annoncer la nouvelle. Maréchal Pétain, c'est Vichy. C'est aussi un homme avec lequel le général de Gaulle a travaillé. C'est une part de l'histoire du général de Gaulle. Donc c'est évidemment un choc absolument majeur. Mais Pompidou estime que, dans le fond, c'est plutôt un soulagement. Parce qu'il faut bien voir qu'entre 1945 et 1950, un certain nombre de gaullistes se disaient « dans le fond, il faut peut-être se rapprocher un peu du maréchal Pétain, il faut peut-être pas l'ostraciser comme ça a été le cas ». Et ça avait commencé à créer des tensions dans le mouvement. Et Pompidou estime que la mort du maréchal Pétain, dans le fond, c'est plutôt une bonne affaire. Donc il débarque dans le bureau du général de Gaulle et il dit au général de Gaulle « Mon général, Pétain est mort, voilà une affaire de liquider ». Le général de Gaulle lui répond « Pompidou, le maréchal Pétain est mort. Et ça n'est pas une affaire liquidée. C'est un drame historique. Et un drame historique, on ne s'en remet jamais. » Et lui, il voit que ce drame de Vichy, la France va devoir vivre avec pendant encore des siècles. Et c'est là que le général de Gaulle est le général de Gaulle. Je pense que dans la vie politique française, la perte du sens historique et la nécessité absolue de retrouver ce sens du temps long, de l'histoire dont nous sommes les dépositaires, de l'histoire qui nous reste à reconstruire, est un des éléments absolument décisifs. C'est ce qui fait la force du général de Gaulle. Cette capacité à jouer des circonstances avec une habileté confondante, mais à s'inscrire toujours dans le temps long de l'histoire de France.
Claire Destacan a réalisé cette émission. Yann Fressy en a été le preneur de son. Les archives sonores ont été dénichées par Karen Dehé et Claire Tesser. Programmation musicale, Thierry Dupin. Et pour Léo Ferré, Gérald Darmanin. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian. Mixage, Julien Chabassu. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou sur le site de France Inter. Et vous pouvez nous retrouver dimanche prochain après le journal de 13h. D'ici là,
Française, Français,
bel été.
Vive la République! Vive la France !